France Inter, le 18-20.
Des millions de Français somnolent dans la journée. Près d'un quart d'entre nous piqueraient du nez, faute d'avoir suffisamment dormi la nuit. C'est ce qui ressort de la dernière enquête de l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance, réalisée à l'occasion de la journée du sommeil, qui a lieu aujourd'hui. Il faut dire que selon le baromètre de Santé publique France, notre temps de sommeil serait tombé en dessous des 7 heures par nuit. Nous aurions perdu entre 1h et 1h30 de sommeil quotidien en un demi-siècle. La faute à qui ? À notre mode de vie, sans doute. Les contraintes professionnelles, bien sûr, mais aussi les tentations, comme les écrans qui s'invitent partout, y compris dans nos chambres à coucher, voire sous l'oreiller pour les plus jeunes. On s'arrêtera sur les conséquences de ce manque de sommeil sur notre santé et sur ce qu'il convient de faire pour y remédier. Car une chose est certaine, et les Français en sont conscients, bien dormir est essentiel. Rien de tel qu'une bonne nuit dans les bras de Morphée pour se requinquer. Deux invités à nos côtés ce soir pour répondre à toutes vos questions, que vous soyez insomniaque ou pas. Docteur Joëlle Adrien, bonsoir.
Bonsoir.
Neurobiologiste, présidente de l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance, directrice de recherche à l'INSERM. Docteur Damien Léger, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Chef de service au Centre du Sommeil et de la Vigilance de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Paris. Président de la Société Française de Recherche et de Médecine du Sommeil. Un numéro pour joindre nos invités, c'est toujours le même, celui du standard de France Inter, 01 45 24 7000.
Claire Servagen, le téléphone sonne.
Et tout de suite, un premier appel, c'est Philippe qui nous appelle. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Je ne sais pas dans quelle région vous êtes, vous allez nous le dire.
J'habite Bordeaux, j'habite en ville.
Bonsoir alors, dites-nous
bonsoir.
Tout.
Bonsoir.
Bonsoir.
Eh bien, moi, je voudrais bien dormir plus, mais les conditions de vie en ville ont évolué. Il n'y a plus de notion de jour ou de nuit. On reçoit, on fait la fête la nuit, on fait du bruit comme si c'était le jour. Et lorsque vous intervenez dans votre résidence ou auprès du voisinage pour dire à 2h du matin, bah écoutez, plutôt que d'être sur votre balcon, rentrez chez vous parce que je veux dormir, ben là on vous dit, mais on est en ville. On est en ville, il n'y a plus de normes. Vous appelez les services de police qui n'ont pas les moyens d'intervenir, et quand ils interviennent, on fait des rappels à la loi, mais c'est sans effet.
Et c'est une souffrance pour vous, Philippe ?
Ah ben, tout à fait, moi je me lève le matin à 6h du matin pour aller travailler. Mais il y a aussi lorsque la ville se met elle-même à organiser le vacarme. Moi j'habite centre-ville, dans un quartier populaire, et le jeudi, à partir du jeudi, la municipalité vous organise de temps en temps des soirées techno. Alors, je suis à 300 mètres de la place, j'entends la techno. C'est jusqu'à 1h du matin, avec toute la faune qui est à côté, hein, c'est la beuverie, c'est le jeudi, on se préoccupe pas des familles, des gens qui veulent dormir, des enfants qui doivent dormir, des gens qui doivent se lever le matin. C'est invivable.
Merci Philippe.
Qui plus est, je voudrais dire aussi, j'habite dans un immeuble qui est récent, qui est aux normes, mais on tient compte du bruit et on traite les problèmes d'acoustique que si vous êtes à côté d'une rue passante. On traite que le bruit qui est occasionné par les voies de circulation, par les véhicules. Les bruits qui sont occasionnés par une terrasse sont pas traités par les normes phoniques.
Merci Philippe. En tout cas, dans votre cas, le problème est clairement identifié, hein, docteur Damien Légiste.
Oui, complètement, mais je suis d'accord avec Philippe. Moi, c'est vraiment la cacophonie. Je trouve que c'est bien, à l'occasion de la journée du sommeil, la journée nationale du sommeil, de rappeler que, ben, finalement, dormir, ça relève de chacun d'entre nous, de faire attention à son voisinage, aux gens qui sont à côté, pour leur permettre de mieux dormir. Parce qu'effectivement, confondre le jour et la nuit, comme ça, c'est devenu une tendance. Et tendance soi-disant branchée, mais qui en réalité a des effets très néfastes sur notre santé.
Ça veut dire qu'à l'Hôtel Dieu où vous travaillez, vous voyez régulièrement des gens qui viennent avec ce genre de problème ?
Oui, complètement. Il y a l'effet centre-ville, mégapole maintenant, où le bruit est très important. Il y a le bruit des avions, le bruit des deux roues motorisées, qui est vraiment très gênant. Mais également la pollution lumineuse qui commence à être un problème important, c'est-à-dire éclairer à tout prix les centres-villes. D'ailleurs, l'Institut du Sommeil, National du Sommeil, s'en est beaucoup occupé.
Et, absolument.
Oui, docteur Joëlle Adrien.
Il ne faut pas empêcher les gens de faire la fête, mais ça doit être de temps en temps, quand c'est tout
toutes les semaines ou tous les soirs, c'est vrai que c'est impossible de dormir dans ces conditions. Et puis, se surajoute la pollution lumineuse, le bruit des voitures, etc. Mais là, ce monsieur parlait surtout du bruit des gens qui font la fête. Et là, effectivement, c'est une tendance de faire la fête très souvent, comme si on n'avait pas besoin de dormir.
Comme si la nuit n'était pas faite pour dormir,
voilà,
c'est ça.
Comme si la nuit n'était pas faite pour dormir, qu'on n'en avait pas besoin. Or, ça a un impact extrêmement préoccupant sur la santé de ne pas assez dormir.
Peut-être un mot du constat que vous faites à l'occasion de cette journée du sommeil. On manque clairement de sommeil aujourd'hui, nous les Français, en tout cas quand on les interroge, deux tiers d'entre eux disent qu'ils manquent de sommeil, c'est ça?
Oui, ils manquent de sommeil, c'est-à-dire que soit ils ne dorment pas assez longtemps, soit leur sommeil est de mauvaise qualité, donc ils ne dorment pas suffisamment. Et en fait, on s'aperçoit dans les enquêtes que un grand nombre de personnes dorment moins de 6 heures par nuit. En tout cas pendant la semaine. C'est-à-dire que là, il y a la contrainte des transports, des horaires de travail, etc. Donc moins de 6 heures par semaine, c'est vraiment un seuil à partir duquel il y a des maladies, développement de différentes maladies, des troubles cardiovasculaires, des différentes maladies.
Et on va revenir sur les conséquences, voilà. Mais peut-être d'abord sur ce constat.
Donc, c'est ce constat qu'on dort en moyenne 7 heures, un peu moins de 7 heures pendant la semaine, et du coup, c'est pas suffisant puisque pendant le week-end, quand on a le loisir de dormir plus, eh bien, on dort 1 heure à 1 heure et demie de plus.
Voilà, c'est ça, on dort 6h42 par nuit, c'est le chiffre qu'on nous a donné il y a quelques jours. Exactement. Docteur Damien Léger, comment fait-on pour savoir de combien de sommeil on a besoin, parce qu'on est tous différents? Est-ce qu'il faut attendre une période de vacances pour se poser et puis essayer de voir ce dont on a besoin chacun?
Oui, complètement. Alors, il y a déjà le week-end ou les jours de repos pour les gens qui travaillent quand même le week-end, qui permettent de savoir, c'est-à-dire si vraiment on a un décalage entre la semaine et le week-end qui est supérieur à 2 heures, c'est-à-dire qu'on dort 2 heures de plus et encore plus le week-end que la semaine, ça veut dire que vraiment on est en privation de sommeil, on est en dette de sommeil. Et après, bien sûr, c'est au cours des vacances qu'on se rend bien compte, surtout les premiers jours permettent de rééquilibrer un petit peu la fatigue, la dette, mais au bout de quelques jours de vacances, à quelle heure se couche-t-on d'habitude, à quelle heure, combien de temps on dort, bien, on a un peu la tendance naturelle qui s'affiche au bout de quelques jours, une semaine de vacances.
Alors on reviendra tout à l'heure sur les remèdes à apporter, mais puisque vous parlez du week-end, peut-être une question à ce stade là, est-ce qu'on peut, quand on ne dort pas suffisamment la semaine, récupérer le week-end, ou ça ne marche pas comme ça, ce n'est pas les vases communicants au niveau du temps de sommeil? Comment ça se passe?
Oui, alors Damien Léger. C'est pas complètement les vases communicants, mais quand même, c'est-à-dire qu'en fait, vraiment, il vaut mieux récupérer quand même le week-end globalement que rester sur complètement le même temps de sommeil. Mais par contre, pas trop se décaler. Je pense que c'est aussi un des constats de la journée du sommeil, là, sur la somnolence qui est affichée par ces résultats. C'est-à-dire qu'on conseille de ne pas trop se décaler entre la semaine et le week-end pour éviter d'avoir le problème du dimanche soir où tant de gens ont du mal à s'endormir parce qu'ils se sont trop décalés.
Oui, donc il ne faut pas trop se décaler, c'est-à-dire pas trop retarder l'heure du réveil. Par contre, si on n'a pas assez dormi, on n'a pas assez rattrapé, on peut faire une sieste, c'est même recommandé, parce que la sieste a beaucoup de vertus, pourvu qu'on fasse la sieste avant 16 heures.
D'accord, ouais. Ça c'est noté. On repart au standard de France Inter. Serge est en ligne, il nous appelle à son tour. Bonsoir Serge, du Sud-Ouest visiblement.
Des Hautes-Pyrénées,
Hautes-Pyrénées, bonsoir.
Voilà. Bon, qu'est-ce que je fais? Je raconte directement mon petit truc?
Ah bah allez-y, racontez-nous tout, hein. On est entre nous là.
Je vais raconter tout, sous réserve de pudeur. Alors donc voilà, il y a déjà 2 ans et demi plus, un cancer a été diagnostiqué chez mon épouse. J'ai été voir la généraliste pour demander l'espérance de vie. Elle m'annonce 12 à 14 mois. Et elle me dit, à propos de mon épouse, et elle me dit, il faut que vous dormiez. Donc, brutalement, prescription somnifère X, anxiolytique Y. Donc j'ai absorbé ces deux molécules, pour simplifier, et je me suis retrouvé avec des nuits de sommeil de 2 heures, 3 heures cumulées maximum. En réalité, le problème, c'est le choc émotionnel, je crois, en ce qui me concerne. Et donc, pas moyen, et j'essayais de demander à la généraliste de prescrire autre chose. Et par moi-même, j'ai été voir des psychologues, et j'ai été voir aussi un psychiatre, après ordonnance de la généraliste, le psychiatre m'a prescrit de la mélatonine. Je ne fais pas de pub pour la mélatonine. J'avais essayé aussi des tas d'autres trucs comme la méditation. Ça, ce sont pas des médications, des médicaments. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Avec la mélatonine, je suis passé des nuits de 4, 5 heures, 6 heures, les jours de bon vent. Le problème, surtout, ce que je veux dire, c'est qu'à propos des deux molécules que j'ai absorbées, je me suis retrouvé en cure de désintox, avec des suées nocturnes, avec etc., etc., pratiquement comme une désintox d'alcoolique, quoi. Et donc, le vrai problème en ce qui concerne, enfin, à partir de mon problème, je dis que l'insomnie absolue, les problèmes de mauvaise nuit peuvent venir d'un choc émotionnel qui n'est pas obligatoirement, que la perte de sa moitié d'orange. Ça peut être aussi une rupture amoureuse, ça peut être aussi un gros échec sur le plan professionnel ou autre. Et c'est ce choc émotionnel dont je n'arrive pratiquement pas à sortir. Voilà. Et mes problèmes de sommeil se traduisent ensuite par des troubles cognitifs, des troubles déductifs, etc., etc.
Merci Serge pour ce témoignage. On vous souhaite bon courage, mais on va évidemment donner la parole à nos invités pour voir ce qu'ils ont peut-être à vous conseiller, docteur Damien Léger, quand vous entendez ce que nous dit Serge.
D'une part, je suis très touché par ce message, parce qu'effectivement, c'est une histoire qui vous est arrivée, mais ça arrive à des milliers de personnes qui, sur l'effet d'une quelque chose de très important comme ça dans la vie, ont ces répercussions sur le sommeil. Et en effet, c'est pas facile de s'y retrouver. Après, c'est pas facile de s'y retrouver parce que d'abord, il n'y a pas de bonne solution, comme vous le dites. C'est-à-dire que quand on a eu un deuil comme ça, ça se récupère pas en quelques jours. Et puis que d'autre part, en effet, on connaît pas très très bien le sommeil de la part des médecins, de l'entourage, et que quelquefois, on va sur directement sur les somnifères, alors qu'en fait, ça ne peut être qu'une solution un peu de recours, pas une solution de première intention comme ça. Alors, quelles sont les solutions vraiment qui aident? Eh bien, c'est considérer un peu le sommeil globalement, arriver à en parler un peu de manière attentive avec son généraliste, parce que beaucoup de généralistes connaissent bien, mais il faut prendre le temps d'en parler, comme on le fait là ce soir, pour pouvoir arriver à trouver des solutions adaptées à chacun.
Docteur, oui, et puis maintenant, vous pouvez vous faire aider, Serge. C'est pas une fatalité. On peut en sortir parce que maintenant, en utilisant des méthodes où on apprend à gérer son sommeil avec des outils particuliers, mais qui sont difficiles à acquérir. Donc, ce sont des psychologues qui sont formés à ce genre de suivi, à ce genre de méthode, qui est la gestion du sommeil. Eh bien, on peut être aidé de façon très très efficace. Et on commence à avoir des spécialistes de ces méthodes dans les grandes villes, notamment vous êtes à Bordeaux, je crois, donc ça existe.
Dans les Hautes-Pyrénées.
Ah pardon, dans les Hautes-Pyrénées, d'accord. Et donc c'est en train de se mettre en place en France. Il y a aussi des livres qui en parlent. Ce sont des méthodes qui sont beaucoup utilisées aux États-Unis, au Canada et puis dans les pays du Nord, dans l'Europe du Nord, mais pas encore tout à fait suffisamment en France, mais on y travaille. En tout cas, il y a vraiment un espoir et une possibilité de s'en sortir en connaissant bien la façon de gérer son sommeil. Et pour gérer son sommeil, il faut savoir qu'il faut gérer son éveil surtout. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait dans la journée est très important pour améliorer le sommeil. C'est pour ça que le thème de l'enquête cette année de l'Institut du sommeil et de la vigilance, le thème de la journée du sommeil, c'est mode de vie et sommeil. Et vraiment, notre mode de vie a un impact très fort sur notre sommeil. Et en particulier, ce qu'on a vu cette année, c'est que si on sort en plein air dans la journée, c'est-à-dire qu'on s'expose à la lumière du jour, en marchant d'un bon pas, mais au minimum une heure par jour, pas forcément de la marche, mais d'être en plein air, c'est-à-dire de pas rester enfermé dans les bâtiments. Ce qu'on fait, on passe 90% du temps à l'intérieur des bâtiments. Donc ça, c'est une erreur. Il faut au moins passer une heure par jour en plein air, en s'exposant à la lumière du jour. Et à ce moment-là, on dort mieux, déjà. Donc voilà, ça c'est un des outils que tous les Français devraient appliquer, parce que c'est très agréable d'aller en plein air. Et pourquoi pas
surtout
sortir
le
matin ou à la pause du déjeuner.
Je retiens surtout quelque chose que vous venez de dire d'important. Vous dites qu'il n'y a pas de fatalité.
C'est vrai.
Voilà, il n'y a pas de fatalité.
Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. On n'est pas forcément condamné à se retourner dans son lit toute la nuit en se disant que...
Il faut réapprendre les bonnes... réacquérir les bonnes habitudes, parce qu'avec avec le mode de vie qu'on a, Internet, etc., eh bien, on a perdu les bonnes habitudes qui font un bon sommeil.
Alors, vous parlez d'Internet, je crois qu'on va justement y venir. Catherine nous appelle du Pas-de-Calais. Bonsoir, Catherine.
Oui, bonsoir.
Vous êtes infirmière, bonsoir. C'est ça ?
Oui, je suis infirmière dans une maison des ados dans le Pas-de-Calais.
Et vous êtes confrontée à ce problème du manque de sommeil des ados ?
Oui, alors j'interviens dans des collèges, parfois dans des lycées aussi, sur la thématique croisée sommeil-écran. Et je suis assez catastrophée par le manque de sommeil de nos jeunes. J'étais en collège la semaine dernière et j'y serai encore la semaine prochaine. Donc, qui jouent beaucoup sur les jeux vidéo la nuit, qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont dans la plupart du temps, 50% des cas, leur téléphone sous l'oreiller, qui disent eux-mêmes avoir des difficultés à se concentrer le lendemain en classe, avoir du mal à prendre leurs cours, avoir du mal à se relire le soir, et qui s'amusent aussi à faire des défis nuits blanches. Voilà, je suis assez affolée. Je pense que les parents ne sont pas au courant de l'utilité du sommeil, à quoi ça sert, la neurogénèse, l'apprentissage, la mémorisation. Et je constate qu'il y a quand même assez peu de moyens dédiés à la promotion de la santé et peut-être pas assez d'outils encore destinés à cette thématique. J'appelle à davantage de moyens pour faire de la prévention.
Catherine, on va vous répondre, mais moi j'ai quand même une petite question à vous poser, parce que j'avoue que le défi des nuits blanches, là je suis passée à côté, c'est-à-dire ils s'amusent à se lancer comme défi de rester éveillé toute la nuit, c'est ça ?
Exactement, sur les réseaux sociaux ou en ligne, par exemple avec le jeu Fortnite qui fait un carton en ce moment, et très jeune même parfois chez des enfants du primaire.
Merci Catherine pour ce témoignage très très important. Docteur Damien Léger, vous connaissiez ce défi ?
Alors je savais qu'en fait le fait de ne pas dormir c'est considéré un peu comme quelque chose de...
Oui, j'ai passé ma nuit blanche, voilà, c'est puis, une fierté,
en effet,
mais bon.
Les interactions, en fait on est très impressionné, même dans notre centre du sommeil à l'Hôtel Dieu de Paris, quand on voit les gens viennent pour dormir, ils ont des problèmes de sommeil depuis souvent des années. Et donc, on les enregistre en vidéo la nuit pour savoir s'il existe des parasomnies, des problèmes au cours du sommeil. Eh bien, on constate de plus en plus qu'au cours de la nuit, les gens branchés avec les électrodes sortent leur téléphone, leur tablette et répondent à des messages, regardent des films en streaming quand ils se réveillent. Et donc, c'est un comportement qui a complètement changé. C'est extraordinaire et je crois qu'effectivement, la prévention doit être à la hauteur de ce défi.
Docteur Joël Ladrière.
Oui, c'est vraiment un nouveau comportement, c'est d'aller au lit pour engager une activité sur écran. On a vu dans l'enquête l'année dernière de l'INSV que seulement un jeune sur 10 va au lit pour dormir. Tous les autres vont au lit pour engager une activité sur écran, alors c'est pendant au minimum une heure. Et parfois ça dure 2 heures, 3 heures ou toute la nuit. Donc ça, c'est un
alors,
nouveau comportement.
Hormis le fait que, évidemment, quand on est sur un écran, ben on ne dort pas, est-ce que le fait d'avoir été sur un écran juste avant d'essayer de s'endormir, ça c'est un souci ou pas ?
Tout à fait, parce que l'écran a deux effets. D'abord, la lumière qui rétroéclaire les écrans a un effet, elle dit à notre horloge biologique que c'est le moment d'être réveillé et que ce n'est pas du tout le moment de dormir. Donc déjà, il y a un effet de la lumière elle-même. Et ensuite, quand on est sur les réseaux, en interaction ou sur des jeux vidéo, quand on est en interaction, il y a une excitation émotionnelle, intellectuelle, et donc ça réveille encore plus. Et finalement, on met plus de temps à s'endormir. Une fois qu'on décide, ok, je dors, j'éteins la lumière, on va mettre beaucoup de temps à s'endormir, et le sommeil va être de moindre qualité.
Et le fait de... Alors là, on sort des écrans, des tablettes, etc., de regarder la télé, est-ce que ça, c'est un souci ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent, sur franceinter.fr aussi, on est en manque de sommeil parce que les films commencent à 21h le soir, ils sont tous devant la télé, visiblement,
alors
le soir.
C'est vrai qu'en fait, là, on avait d'ailleurs présenté ce défi au moment on avait fait un rapport avec Terra Nova sur sommeil et société, et en disant pourquoi le journal est-il à 20h en France, alors que dans beaucoup de pays, c'est beaucoup plus tôt dans la soirée, 19h, 19h30. En effet, déjà le journal de 20h commence à retarder un peu toute la soirée des gens, et les films commencent de plus en plus souvent après 21h, 21h30, et donc pas mal de gens s'en plaignent en se disant ça nous décale.
Oui, alors qu'il y a 20 ans, le film du soir est commencé à 20h30. Juste après le journal télévisé. Et puis, il y a 20 ans, ils ont décidé, je crois que c'est au moment où il y a eu l'apparition de la publicité à la télévision, et donc ils ont décidé que le film commençait à 21h. Donc déjà, le journal du soir est tard, mais en plus, le début du film est beaucoup plus tard.
On est pour le changement d'heure, mais dans l'autre sens, nous. C'est-à-dire, en fait, le journal télé à 19h, hein, on est prêt à signer avec l'Institut.
Comme le journal de France Inter, c'est à 19h le soir. On part au standard de France Inter. On a un très jeune auditeur qui nous appelle ce soir, il s'appelle Louis. Bonsoir Louis.
Bonjour.
Tu as quel âge? Bonjour. Louis,
j'ai 5 ans et demi.
5 ans et demi. Et pour quelle raison appelles-tu France Inter?
Parce qu'en fait, je dors pas bien la nuit, j'aime pas la nuit et aussi je fais des cauchemars tout le temps la nuit. Et du coup, je viens rejoindre mes parents.
En fait, tu as peur, c'est ça?
Oui.
Tes cauchemars te font peur?
Oui.
Et quand tu rejoins tes parents, qu'est-ce qui se passe?
Ben, je me sens mieux.
Et là, du coup, tu t'endors?
Oui.
Ah, c'est peut-être ça la solution. Merci Louis de nous avoir appelé. Reste en ligne parce que nos invités vont te répondre, docteur Damien Léger.
Alors moi Louis, je peux te dire que le fait de dormir c'est un grand plaisir. Donc tu vois que quand tu te retrouves dans ton lit le soir, regarde autour de toi, ton oreiller, ta couette et tu te dis quelle chance je suis. Alors il y a les cauchemars bien sûr, mais il y a les rêves et les rêves c'est génial, c'est mieux que plein de jeux. Et d'autre part, je vais te dire, pour tes parents, il faut aussi qu'ils dorment tout seuls et ça leur fera du bien de temps en temps de pouvoir dormir sans être dérangés pendant la nuit. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont fatigués le matin, parce que bien sûr c'est sympa d'être ensemble en famille, mais la nuit, normalement, on est chacun dans son lit. Voilà, c'est ce que je peux te dire comme petit message.
Louis, est-ce que tu as entendu ce que t'as dit le docteur Damien Léger? Est-ce que tu pourrais penser peut-être un peu plus à tes rêves et moins à tes cauchemars, ou c'est difficile?
C'est difficile.
Allez, du courage Louis, ça va s'arranger,
bon
t'inquiète
courage.
Pas. T'inquiète pas Louis, on te dit à bientôt et on espère que tout ça va s'arranger. Docteur Damien Léger, docteur Joël Adrien, est-ce que c'est fréquent d'entendre un enfant de cet âge-là parler de ces problèmes de sommeil? Est-ce que des enfants viennent vous voir à la consultation? Est-ce que les parents vous les amènent?
Oui, oui, bien sûr, les parents nous les amènent parce que les enfants font comme Louis, c'est-à-dire qu'ils un grand nombre n'aiment pas être tout seul dans leur chambre et ils ont peur et donc ils vont rejoindre leurs parents.
Là, après, on va se dire que c'est humain aussi de,
oui,
de rejoindre ses parents quand
mais
on
là,
est petit.
Là, il y a tout un apprentissage envers l'enfant de dire ce que disait le docteur Léger, c'est-à-dire c'est très bien de dormir, c'est un grand plaisir et il faut rassurer l'enfant s'il a peur. Avec les moyens qu'on a, peut-être que c'est bien de lui lire une histoire avant de dormir. Mais l'important, c'est qu'il arrive à avoir une autonomie de sommeil, c'est-à-dire qu'il puisse s'endormir tout seul.
J'aimerais qu'on aborde la question que vous aviez abordée tout à l'heure, docteur Joël Adrien, des conséquences du manque de sommeil. C'est pas uniquement un mal-être. La conséquence, c'est des conséquences en termes de santé publique.
Oui.
Oui, complètement.
Ou Damien Léger.
Oui. Alors en fait, on sait maintenant depuis pas mal d'années que dormir moins de 6 heures par 24 heures, c'est associé à un risque de surpoids, d'obésité, de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires, d'accidents. Donc en fait, c'est là où on se rend compte que ce besoin finalement un peu bizarre tous les jours qu'on soit obligé de dormir. Moi, il y a beaucoup de mes patients qui me disent, moi j'aimerais bien rester réveillé 2-3 jours et puis dormir une nuit 20 heures. De suite, non, en effet, chaque jour, ça s'impose et ce besoin, finalement, c'est une sorte de rééquilibre, de prévention et c'est le meilleur facteur de prévention qu'on connaisse, c'est qu'il soit très accessible.
Ça veut dire que le fait de laisser de plus en plus de gens travailler la nuit, c'est quelque chose de néfaste en termes de santé publique. Moi, j'ai vu les chiffres là, 4 300 000 personnes travaillent de nuit aujourd'hui, c'est 1 million de plus qu'en 1990, ça paraît énorme.
Je crois que c'est un peu la même tendance que ce qu'on disait tout à l'heure sur l'éclairage des villes, etc. C'est-à-dire que bien sûr, il y a des activités de nuit qui sont indispensables dans le domaine des transports, de la santé, de la sécurité, etc. Mais par contre, il ne faut pas en rajouter, c'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de tout ouvrir la nuit, de tout faire la nuit, parce que c'est pas sans conséquence sur la santé.
Oui, ça, c'est vraiment une responsabilité à la fois individuelle et collective. Parce que pourquoi les magasins sont ouverts la nuit ? Parce que les gens demandent à pouvoir faire leurs courses la nuit. Donc voilà, tout le monde est un peu complice de ce système finalement, où on peut avoir tout le temps, à n'importe quelle heure. On n'attend plus, on veut vraiment, on est dans l'immédiateté de la consommation, et ça pour le sommeil c'est quelque chose qui est très très délétère.
Une question de Geneviève qui est en Haute-Savoie, me semble-t-il, en Savoie. Bonsoir Geneviève.
Bonsoir à vous tous.
On vous écoute.
Bonsoir.
Oui, en fait, c'est une émission qui est basée plutôt, je l'entends, sur le manque de sommeil. Et moi, je voulais quand même alerter sur le cas des personnes qui dorment trop, qui se mettent dans leur lit parce qu'elles fuient le temps, elles fuient la vie. Alors il y a des personnes qui sont dépressives, même sans médicaments. Hein, ce sont des gens qui se murent dans le sommeil toute la journée, peut-être voilà, et elles arrivent à dormir. Et c'est ça. C'est une sorte de, je sais pas, de dépression et elle fuit la vie tout simplement. Et je voulais savoir ce qu'on peut penser aussi de ces réactions qui sont complètement, je pense, physiologiques et psychologiques aussi, pour fuir la réalité et pouvoir s'enfermer complètement dans une bulle pendant des heures, quoi.
Merci Geneviève pour cette question, docteur Damien Léger. Il y en a qui dorment trop alors.
Oui, merci beaucoup. Alors en fait, il y a deux. Je pense qu'il faut vraiment bien séparer deux choses. D'une part, il y a des personnes qui souffrent d'hypersomnie, c'est-à-dire vraiment d'un besoin excessif de dormir, comme la narcolepsie par exemple. Ces maladies sont de mieux en mieux connues. Il y a maintenant des centres de référence hypersomnie un peu partout en France. On peut les retrouver grâce aux maladies rares, à Orphanet et à ces centres de référence. Et si vraiment les gens se trouvent dans cette situation d'avoir vraiment beaucoup, beaucoup besoin de dormir tous les jours, eh bien ça peut être une hypersomnie. Et puis après, il y a le cas effectivement de la tristesse, du fait qu'on va se replier sur soi-même. Et souvent, vous avez raison, Geneviève, je pense, dans son lit, dans sa chambre, et de ne pas s'ouvrir aux autres. Et là, c'est un vrai message, en effet, de détresse, hein, d'essayer de rester à tout prix, de dormir à tout prix. Alors souvent, ces personnes n'arrivent pas à dormir, d'ailleurs, parce que, bien sûr, elles prennent des médicaments parfois, elles ont une sorte de somnolence, mais elles n'arrivent pas à dormir autant qu'elles le voudraient. Et c'est un signe, en effet, de dépression, de tristesse, de repli, je pense.
Oui, c'est vraiment un signe de dépression. Il y a des relations étroites entre la dépression et le sommeil. Soit, quand on est déprimé, on dort pas, on est insomniaque. Mais il y a des cas, effectivement, où la dépression entraîne un retrait, un repli tellement important que on reste dans son lit pour, comme vous dites, fuir la vie, fuir les problèmes. Fuir ce qui vous dérange, essayer d'y échapper, donc essayer de dormir. Mais on dort pas forcément, on somnole peut-être. Mais de toute façon, on a besoin de se faire aider. C'est pas un problème de sommeil, c'est vraiment un problème de dépression qui se répercute sur le sommeil.
On repart au standard. Cette fois, c'est Catherine qui est à Saint-Nazaire. Bonsoir Catherine.
Oui, bonsoir.
Bienvenue à vous.
Merci. J'appelle parce que je me disais, est-ce que nos vies stressantes dans la journée, avec de l'inquiétude, de l'insécurité pour beaucoup de personnes, des rythmes compétitifs qui, à mon avis, ont des impacts sur le mental et sur le physique, est-ce que tout ça, c'est des bonnes conditions pour trouver le sommeil le soir ? Et puis, je voudrais dire aussi, juste témoigner, que moi, j'ai eu pas mal de soucis de sommeil, parce que j'ai un métier passionnant, mais qui me mobilise beaucoup. Et je me suis rendu compte que les lendemains où je bossais, je dormais très mal ou très peu, et même parfois vraiment très, très peu. Et je me suis rendu compte que quand je bossais pas le lendemain et que j'étais en vacances au week-end, je récupérais un vrai sommeil. Et donc là, cette année, j'ai décidé de bouleverser ma vie professionnelle pour prendre soin de moi. Donc être à mon rythme, vivre à mon rythme. Voilà, j'en avais marre de ces hauts et ces bas de relâchement intérieur.
Merci beaucoup Catherine pour ce témoignage, docteur Damien Léger. Le travail, c'est pas forcément la santé, c'est ça?
Non, mais l'interaction entre sommeil et travail, là, ce que vous décrivez, c'est exact. C'est une relation très complexe. Que d'un côté, cette espèce de hyper densification maintenant du travail avec des rythmes qui sont très soutenus, le fait de devoir être présent un peu à tout moment. Là aussi, la communication est devenue quelque chose de très très important
à
tous les niveaux,
répondre à ses mails, etc. À portée de main, etc.
Voilà. Et ça, c'est pas banal sur le sommeil, parce que pour bien dormir, il faut quand même arriver à faire une coupure, donc une coupure plaisante, hein, donc dans la soirée, écouter quelque chose de détendant.
On a Marc aussi sur l'application France Inter qui nous demande: que conseillez-vous pour gérer le décalage des plages de sommeil dû au travail en 2-8 ou 3-8, Joël Adrien?
Mais moi, je voudrais quand même féliciter notre auditrice parce qu'elle
Catherine
est vraiment.
Qui a pris les choses en main.
Elle est vraiment directement dans le champ de ce qu'on conseille, c'est-à-dire que vous avez modifié votre mode de vie parce que vous êtes rendu compte que ça détruisait complètement votre sommeil et peut-être à long terme votre santé. Donc vous avez décidé de reprendre les choses en main, de se dire bon, il faut que je modifie mon mode de vie, que je vive de façon plus saine, moins stressée, moins speed, comme on dirait. Et du coup, oui, vous avez eu raison. C'est vraiment ce qu'il faut faire.
Et là, je repose ma question sur ceux qui sont au 2-8 ou au 3-8.
Oui, ça, les horaires de travail qu'on appelle atypiques ou le travail posté, c'est quelque chose qui va impacter très négativement le sommeil. Et on sait que les gens qui ont des horaires comme ça, irréguliers, de travail irréguliers ou atypiques, ils ont encore une heure de moins de sommeil que les autres Français qui déjà manque de sommeil.
Donc, qu'est-ce que vous pouvez
leur situation
conseiller
est très difficile. Ça, je crois que Damien Léger va pouvoir donner des conseils.
Alors, en fait, la réponse, elle est assez compliquée, puisque effectivement, s'adapter à ces horaires décalés, c'est difficile. Si on va sur le plan très technique, il y a eu des conseils qui ont été donnés, puisque l'ANSES, qui est une agence nationale de l'environnement en France, a donné toute une série de recommandations sur le travail de nuit, et ça, on peut le retrouver sur Internet, ces recommandations vraiment très techniques. Alors, les recommandations de bon sens, c'est essayer de dormir au moins 7 heures par 24 heures, même si c'est en deux fois.
Ce sera toujours mieux.
Ça sera toujours mieux que de se priver de sommeil. Voilà. Deuxièmement, utiliser la lumière, un peu comme le disait tout à l'heure Joël Adrien, c'est-à-dire s'éclairer le plus possible avant de travailler et ne pas s'éclairer en partant du travail.
On repart une dernière fois au standard. Cette fois, c'est Maryse qui est en ligne. Bonsoir Maryse.
Bonsoir.
Vous aviez une question sur la recherche, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Alors, j'ai entendu qu'il y avait une unité de recherche de l'INSERM à Lyon, physiologie intégrée du système d'éveil, qui a effectué des recherches qui aboutiraient à la mise au point d'un médicament anti-réveil qui n'aurait pas la nocivité des somnifères actuels. Et ce médicament pourrait être au point dans une dizaine d'années. Je ne sais pas si...
Eh bien, on va poser la question. Maryse, merci beaucoup, parce que Joël Adrien est chercheuse à l'INSERM.
Oui,
Joël Adrien, dites-nous
tout. Tout à fait. Donc, effectivement, il y a des centres de recherche, dont celui de Lyon est très important et très actif. Et on voudrait trouver des médicaments qui permettent de dormir sans qu'il y ait des effets secondaires gênants, comme c'est le cas des somnifères actuels. Donc un médicament qu'on pourrait prendre de façon continue pour les personnes qui ont vraiment un problème médical de sommeil, hein, pas pour juste arriver à dormir un maximum. Donc ces médicaments, la nouvelle piste, c'est ça, ce sont des médicaments qui seraient un anti-éveil. Donc, du coup, si ça lutte contre l'éveil, il va avoir du sommeil. Mais comme vous le dites, hein, on n'est pas prêt d'avoir trouvé ce système. Et quand bien même, l'important, c'est quand même de faire le point un peu sur sa façon de vivre et de voir si ça convient pour améliorer ou en tout cas laisser survenir un sommeil naturel.
Voilà, alors il nous reste 2 minutes. On a toute une série de questions qui sont arrivées sur franceinter.fr. C'est des questions courtes, réponses courtes.
Allez, on y va.
On fait simple, c'est du pratico-pratique. Oui. Là, il y a Dominique qui nous dit: je mets des boules quies pour dormir. Est-ce mauvais pour la santé?
Non, Damien, c'est pas mauvais pour la santé. Il y a beaucoup de gens qui font ça. C'est mieux de s'isoler du bruit que de
ne pas dormir. Ouais. Jean-Christophe aussi sur l'application France Inter: le sommeil polyphasique est-il bon pour la santé? Sommeil fractionné dans la journée. Joël Adrien.
Non, c'est pas spécialement bon pour la santé, mais sinon on est obligé de le faire. On peut effectivement y parvenir.
Alors tout à l'heure, vous aviez évoqué la sieste. On n'a pas eu vraiment le temps d'en parler. C'est bon ou c'est pas bon la sieste?
Oui, c'est bon la sieste. La sieste a beaucoup de vertus.
À condition que ce soit avant 16h, c'est ça?
Il ne faut pas qu'elle soit trop longue, c'est-à-dire une demi-heure. Maximum. C'est le maximum.
Est-ce, question de Marc encore, un autre Marc sans doute, est-ce que le sommeil d'avant et d'après minuit est de la même qualité?
Oui, alors c'est les premières heures de sommeil qui sont les plus importantes, alors peu importe à quelle heure on se couche, mais globalement c'est quand même mieux d'accorder ces horaires de sommeil avec l'environnement, donc avant minuit, parce qu'il fait plus sombre, plus froid.
Voilà, il y a aussi Benoît qui nous dit « J'utilise une montre connectée pour suivre les phases de mon sommeil et essayer d'analyser les courbes de mon réveil. Est-ce fiable? Qu'en pensent vos invités ?»
Pas fiable du tout, mais par contre, ça peut donner une indication de l'heure à laquelle on s'endort et de l'heure à laquelle on se réveille, ou plutôt on sort du lit, on commence à s'activer. Et ça donne une indication. Est-ce qu'on a un rythme régulier? C'est très important d'avoir un rythme de coucher et de lever régulier. Donc, ces applications, elles peuvent aider à vérifier qu'on a un rythme régulier et à se corriger si c'est trop irrégulier.
Une dernière question et ce sera la fin et on a 30 secondes pour en parler. Cerise sur le gâteau, Joël Adrien, je sais déjà ce que vous allez nous le dire. L'heure d'été a-t-elle un impact sur le sommeil? C'est Isabelle qui nous pose la question, docteur Damien Léger. Je sais parce qu'elle est déjà venue nous en parler,
alors, Joël Adrien. Oui, bien sûr, le fait de se décaler a un impact sur le sommeil et donc le fait d'avoir de la lumière le matin, c'est ce qu'il y a de mieux, donc se maintenir sur l'heure d'hiver.
Et donc le passage à l'heure d'été dans une semaine, Joël Adrien? Mauvais.
On va y passer, mais il faudrait revenir à l'heure standard, c'est-à-dire l'heure d'hiver, qui est la plus proche de l'heure du soleil. Et on est fait pour vivre à l'heure du soleil.
Et de toute façon, a priori, on va finir par renoncer au changement d'heure, puisque c'est dans les tuyaux.
Ça, c'est une bonne chose.
De l'Union européenne. Oui. Reste à savoir quelle heure choisir. Et vous l'avez dit, il faudrait mieux l'heure d'hiver. Merci beaucoup, Damien
merci
Léger. Merci beaucoup, Joël Adrien, d'être venu ce soir. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer ce 18-20. Merci à ceux qui nous ont appelés. Merci à Pierre Collat qui a lu vos mails. Ainsi que merci aux standardistes de l'émission. À la technique ce soir, Ronan Mahé, Henri Bérec, Paul Percheron. N'oubliez pas demain soir sur France Inter à partir de 19h30, le Jupiter Show, enregistré il y a un mois tout juste à Saint-Étienne avec Charline Vanhoenacker et toute son équipe.